je suis assez fière aussi de faire ce sport pour ça, parce que on est vraiment le seul sport où hommes et femmes peuvent concourir ensemble, et en plus avec des chevaux.
Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnels, aficionados du stade, médecins du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Dans la bio Twitter de notre nouvelle invitée, on peut lire Poney Saint-Germain. Vous l'aurez compris, on est donc allé à la rencontre d'une femme qui aurait toutes ses chances de finir première au championnat du monde de jeu de mots, mais surtout d'une passionnée d'équitation et du PSG. Elle s'appelle Anouche Morel et pratique cette discipline en amateur depuis près de 20 ans. Alors clairement, l'équitation se résume pour moi à un souvenir traumatisant en poney club quand j'avais 7 ans, et j'ai décidé à ce moment-là de ma vie que je ne remettrai plus jamais les fesses sur un équidé. Sauf que l'équitation, c'est un des sports les plus pratiqués par les femmes en France. C'est donc que petite, je n'avais pas vraiment flairé l'immense potentiel de cette discipline. Et effectivement, je dois avouer qu'Anouche m'a énormément éclairée sur ce sport qui me paraissait plutôt réservé à une élite. Si vous ne le saviez pas, l'équitation est le seul sport totalement mixte et où la moyenne d'âge dans le haut niveau est la plus élevée. Également à l'initiative du compte Instagram Poney Même, Anouche réussit le tour de force de faire marrer plus de 6000 personnes sur le monde de l'équitation et prouve que le rire est sûrement le meilleur moyen de transmettre sa passion. Alors peut-être que comme moi, vous ne serez jamais des adeptes du « je peux pas, j'ai poney », mais j'espère que grâce à cet épisode, vous comprendrez un peu mieux cet univers qui est finalement bien loin de l'image qu'on s'en fait. Salut Anouche !
Salut !
Bienvenue dans Championne du Monde !
Merci.
On est super contente de t'accueillir aujourd'hui sur cet épisode. C'est un épisode un peu particulier parce que tu as un profil aussi qui est un peu atypique, on va dire. Ton métier, c'est pas un métier qui est en lien avec le sport directement.
Non.
Toi, tu bosses pour Éléphant, du coup, qui est une société de production audiovisuelle.
Exactement, qui est dirigée par Emmanuel Chin et Thierry Bizot.
Et qui fait des émissions comme 7 à 8, Le Monde de Jamie, Invitation au Voyage, voilà. Donc effectivement, toi, ton parcours professionnel n'est pas lié directement au sport. Mais tu aimes le poney.
J'aime beaucoup le poney. Et le poney même. Ce jeu de mots que je viens de faire.
Ouais, alors, vous ne le comprenez pas pour le moment, mais vous le comprendrez après. On y viendra. Donc toi, Anouche, en fait, tu es une passionnée d'équitation, en fait.
Oui.
On expliquera ton parcours un peu plus tard. J'aurais déjà une toute première question, mais... Ton premier souvenir de sport, c'est quoi ?
Mon premier souvenir de sport, je pense que c'est mon frère qui imite la célébration de Thuram. À glisser, reglisser, 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 à faire des fausses poses de jongle, à faire comme s'il marquait, mais tout seul dans le jardin. Et je voulais jouer avec lui, il ne voulait pas vraiment. Mais mes premiers
pas
souvenirs...
sympa.
Non, pas sympa, mais mes premiers souvenirs de sport, c'est vraiment mon frère et mon père, et donc le football qu'ils partageaient tous les deux.
Du coup, tu viens d'un environnement, ça c'est une question qu'on pose à chaque fois, mais c'est vrai que c'est assez fondateur généralement. Tu viens d'une famille qui aime le sport, qui regarde le sport, qui est sportive.
Oui, mon père et mon frère faisaient du hockey sur glace. Mon père en fait encore, plus de 50 ans, donc c'est assez cool. Et mais oui, ils ont toujours regardé. Mon père se levait la nuit avant pour regarder les matchs de boxe quand c'était diffusé aux États-Unis. Pareil pour les Grands Prix de F1. Il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux, on en parlera après. Mais oui, on aime. Bon, ma mère s'en fiche un peu, mais on aime beaucoup le sport dans la famille.
Donc du coup, tu as été, par ton père et par ton frère, amenée à être intéressée par le sport. T'as commencé... Qu'est-ce qui t'a intéressée en premier, en fait ? T'as suivi ce que ton père et ton frère regardaient ou,
Ah bah totalement. Moi, j'étais, j'entendais mon père et mon frère pester contre l'Olympique de Marseille depuis toujours. Donc automatiquement,
On comprend que vous êtes supporter du PSG.
Voilà. Je suis donc pour le Paris Saint-Germain depuis toujours. Bon, je suis née à Paris, donc en même temps, je ne pouvais pas renier mes origines.
C'est bon, voilà, ne nous quittez pas, hein, tous les...
Restez avec nous.
Voilà, exactement. On accepte tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'aimer le PSG. Et du coup, après, toi, t'as commencé à faire du sport petite, donc t'as inscrit dans un club ou...
Ouais, en fait, j'habitais à Gentilly dans le 94, donc il y avait le stade Charletti juste à côté, et je voulais un peu faire tous les sports. Et chance, il y avait donc des stages omnisports au stade Charletti. Donc mes parents, qui étaient producteurs télé à l'époque, avaient des grosses journées, donc ils me posaient le matin au stade. Je faisais du foot, du tennis, du basket, du squash, de l'athlé, et ils venaient me chercher le soir et j'étais rincée, donc c'était assez pratique pour eux, et moi ça me permettait de faire connaissance avec des gens de mon âge ou pas, et découvrir des sports que je connaissais pas.
T'avais quel âge à l'époque ?
6 ans, 6-7 ans.
T'étais un tout petit, j'étais mini, un petit bout de chou quoi.
J'étais mini.
T'as continué à faire plein de sports comme ça pendant plusieurs années, ou tu t'es quand même...
Ça s'est un peu précisé à 7 ans quand on a emménagé à Meudon en 92, parce qu'à Sèvres, juste à côté, il y avait le Poney Club de Brimborion, là où j'ai fait mes premiers pas à Poney Shetland. Et en parallèle, j'avais toujours un grand intérêt pour le hockey sur glace qui me fascinait, parce que j'avais aussi fait du patinage artistique, un peu, pour essayer. Mais je préférais le hockey, parce que l'équipement était plus stylé, c'était un peu plus violent, il fallait avoir la grinta quoi, pour jouer. Et donc j'ai joué au hockey pendant une petite saison, genre quand j'avais 10-11 ans. Et en fait... j'ai arrêté parce que déjà financièrement les deux c'était compliqué, et puis surtout quand les garçons grandissent et les filles non, en hockey sur glace ça se voit, ça se ressent, et je commençais un peu à me faire embêter dans les vestiaires, donc c'était pas...
C'était un peu forcé, enfin par la force des choses t'as arrêté plus que par véritablement envie d'arrêter en fait.
Ouais, et puis surtout, moi j'adorais patiner, marquer et tout, c'était cool. J'avais jamais fait vraiment de compétition en hockey, mais juste l'entraînement était bien. C'était à la CBB, à Boulogne-Billancourt, c'était hyper cool.
Et donc du coup, tu t'es dirigée vers l'équitation, le poney dans un premier temps.
Vers le poney, les Shetland, mon premier poney de concours de toute ma vie s'appelle Intrépide, c'était une ponette, on s'appelle comme ça.
C'est mignon. Et du coup, à partir de ce moment-là, coup de cœur, tu t'es dit, ça y est, c'est le sport. Parce que tu avais quand même fait pas mal de sport avant, tu disais, même dans les centres omnisports où tu avais fait du patinage, où tu faisais plein de trucs différents. Là, quand tu as commencé ce sport-là, tu t'es dit, ok, c'est vraiment ce qui me correspond.
En fait, moi, j'étais hyper timide quand j'étais petite. C'est plus trop le cas maintenant. Mais j'osais pas trop parler aux enfants de mon âge, filles, garçons confondus, c'était pas ça le souci, c'est juste que ça me faisait flipper. Et du coup, me dire que je pouvais parler à un poney qui me répondait pas trop, mais tu vois, il y avait un échange un peu.
Il hochait la tête.
Ouais, mais il voulait juste manger des bonbons, on sait. Tu vois, surtout les Shetland, c'est des crevards, ils veulent juste manger. Mais mais juste avoir cette interaction avec un animal qui fait aussi attention à toi, parce que le but, c'est qu'il essaie de pas te faire tomber en général. Ils sont assez doux, même si ça peut être des petites teignes. Du coup, ce truc de confiance avec un animal m'a donné confiance en moi. Et après, ça m'a permis aussi de parler aux autres personnes, aux autres enfants de mon âge qui faisaient du poney. Donc, on avait déjà un centre d'intérêt commun qui était assez grand, parce qu'en fait, on est tous à fond quoi, dedans. Une discipline que tu ne peux pas faire à moitié. Tu
as commencé rapidement à faire des compètes, à te mettre à fond dedans. Ça se passe comment, du coup, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers du monde de l'équitation? T'es obligé, c'est une discipline en fait, t'es obligé d'y aller plusieurs fois par semaine. Quel âge t'as commencé les compétitions? Explique-moi un peu ton parcours.
Alors les compétitions, j'ai commencé quand j'avais 7 ans, je crois, ma première année en club. En fait, à Brimborion, comme dans plein d'autres clubs, ils font des sélections. Et je voulais faire du concours complet. Donc j'explique, le concours complet, c'est une discipline dans laquelle il y a 3 disciplines qui se déroulent en 3 étapes. En premier, il y a le dressage. En second, il y a le saut d'obstacle. Et le cross. Le cross qui se fait un peu, dans un rythme de galop un petit peu soutenu dans la forêt avec des obstacles massifs. Et en fait, j'ai flippé pendant les sélections parce qu'il fallait passer les obstacles de cross. Ça me faisait super peur. Et le coach m'a dit, tu vas faire du horseball et du pony games, du coup.
D'accord.
Pony games, c'est plein de petits ateliers, mettre genre une balle dans un seau, mettre un drapeau dans un plot, voilà. Et le horseball, c'est donc du basketball à cheval. Mm-hmm. Sauf qu'on ne fait pas rebondir la balle et quand elle tombe par terre...
On t'a forcé à faire ça? C'est parce que toi, tu voulais... Mais...
En fait, ça, je ne connaissais pas, donc du coup, ça m'a plu. Et j'ai fait d'abord du pony games et ensuite le horseball où j'ai vraiment kiffé parce que ça se joue en équipe.
Ouais.
De 4 ou 5 s'il y en a un sur la touche.
Faut faire trois passes pour avant d'aller marquer. Donc, c'est vraiment une stratégie. Il faut avoir des poneys rapides. Et il y a toujours un mec qui marque dans une équipe parce qu'il est soit plus grand, soit plus fort. Et là, en l'occurrence, c'était Thomas. Tout le temps, lui, je faisais tout le temps la passe. Moi, j'étais sûre que le but allait être marqué.
Bonjour Thomas.
Salut Thomas. Avec qui je parle encore. Donc, ouais, non, c'était assez, assez soutenu parce que c'était deux à trois fois par semaine.
Ouais. Et, mais c'était encore un pitchounou à l'époque.
J'étais minus. J'ai fait ça de 7-8 ans à 13 ans.
Ok.
Donc, évidemment, pendant tout ce temps-là, j'avais pas le permis. Donc, les parents qui t'emmènent en concours à 6 heures du mat, c'était content. Donc, en fait, c'est une discipline qui touche toute la famille.
Ouais.
Parce qu'il fallait nous accompagner, rester dans le froid, regarder les poneys. c'était cool. Ils ont aussi adoré m'accompagner.
Donc, jusque 13 ans, t'avais ça. Et après, parce que je spoil un peu, mais effectivement, maintenant, quand je vois les photos, ça, t'as plus l'air de faire du saut d'obstacle.
Exact.
Que du horseball. T'as rebifurqué du coup vers le saut d'obstacle.
Ouais.
T'as arrêté le horseball.
En fait, le saut d'obstacle, c'est la discipline la plus connue. Mmh. Et c'est aussi assez accessible. Enfin, quasiment chaque club en France a des petits obstacles à passer. Voilà. J'ai arrêté l'équitation pendant 3 ans, de mes 13 à mes 16 ans.
Crise d'ado.
Je voulais que sortir, je voulais pas du tout aller monter à cheval parce que je me réveillais plus le matin, donc j'avais perdu un peu cette hygiène de vie et ça m'a beaucoup beaucoup manqué. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis remise à cheval et là j'avais envie de faire du saut d'obstacle.
D'accord.
Parce qu'entre temps, j'avais des copines qui n'avaient pas arrêté et qui commençaient à faire des belles épreuves et du coup, ça m'a mordu. Et j'y suis encore.
Et 10 ans, finalement, ouais. Maintenant que tu continues à faire des compètes, tu continues... c'est vrai que c'est un milieu qui est un peu particulier, moi, que je ne connais pas très bien. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi un peu le monde de l'équitation ? Est-ce qu'il existe des codes ? Est-ce que on sent que les gens qui font de l'équitation, c'est vraiment une espèce de petite secte, un peu.
Carrément.
Où les gens se comprennent un peu les uns les autres, et que du coup, quand on n'est pas dedans, quand on n'a pas fait d'équitation, quand on capte pas forcément les codes, on se sent un peu rejeté du truc, et que c'est compliqué, en fait, d'appréhender un peu ce milieu-là.
En fait, l'équitation a longtemps été un sport élitiste, qui était réservé aux personnes riches ou personnes pouvant se permettre d'entretenir et d'avoir un cheval. Après, en France et en Île-de-France notamment, il y a eu de plus en plus d'associations qui ont donné accès à ce sport, à des tarifs un petit peu moins élevés et tout. Et en fait, finalement, la médiatisation n'a pas suivi cette accessibilité. Et donc, les gens de l'extérieur sont moins informés de qui sont les cavaliers, quelle est l'équitation, quel est le saut d'obstacle, par exemple, le horseball, le pony games. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ce que c'est. Alors que tout le monde sait ce qu'est le tennis, sait ce qu'est le foot. Enfin, c'est parce que c'est plus médiatisé. Et en fait, et après, effectivement, il y a aussi le fait qu'on est un animal, parce que c'est la seule discipline qui a introduit un animal, l'équitation, et donc le pentathlon moderne aussi. Ouais. Comme dans chaque discipline, je pense aussi le lexique, le langage, les expressions, quand on fait... On sait que c'est pour faire avancer notre cheval, mais ça aussi peut être pour l'appeler, pour lui dire de venir. En fait, il y a plein de petits mots, petites expressions qui sont totalement inconnues du grand public, ou en tout cas des non-cavaliers.
Tu disais que c'était un milieu qui est perçu par beaucoup comme un sport qui est onéreux, parce que justement, c'est le seul sport qui fait rentrer en compte un animal. Mmh. Donc un cheval, c'est cher, faut entretenir un cheval, c'est pas comme si tu avais que ton équipement entre guillemets à racheter quand il est pas bien, tu le jettes, tu rachètes un équipement, tes chaussures elles sont trouées, tu rachètes des chaussures. Enfin là, c'est un être vivant qui rentre en compte, quoi.
Ouais.
Donc du coup la perception est différente, et je pense qu'effectivement les gens ont encore je dis ça parce que moi-même je l'ai, donc tu vois, c'est terrible, c'est que j'ai encore cette perception comme quoi c'est un sport qui est réservé à une tranche de la population, à une sorte d'élite, etc., alors que c'est pas forcément le cas. Comment t'expliques que justement ce sport est pas encore réussi vraiment à déconstruire un peu cette image?
Parce que ce qui est très médiatisé, c'est le haut niveau. Donc les épreuves 5 étoiles qui sont sponsorisées par des grandes marques comme Rolex, Longines, Hermès, qui sont des marques
pas du tout accessibles au grand public.
Luxe, ouais.
C'est des marques de luxe. Enfin, c'est comme si une épreuve de foot était sponsorisée par Dior. Enfin, ça semble fou. Et en fait, c'est vraiment le cas parce que c'est des marques qui se donnent beaucoup et qui donnent beaucoup d'argent pour que le sport de haut niveau vive. Mais la lumière n'est pas faite sur les petits clubs, sur la vie dans les campagnes, mais même en Île-de-France ou dans les autres grandes villes de France. Il y a plein de super clubs qui font des super choses, mais c'est pas médiatisé. Alors oui, en revanche, il ne faut pas avoir de cheval, je vous le confirme, parce que je suis pauvre maintenant que j'ai un cheval.
Du coup, t'as acheté.
Du coup, j'ai acheté une jument. En fait, tant qu'on est en club et qu'on fait pas trop de compétition, ça revient au même prix que d'autres disciplines. Mmh. Mais dès que on s'y met à fond, qu'on veut acheter tout le matériel, ça devient cher. Et aussi, les traditions autour de l'équitation, ne serait-ce que la tenue de concours, le pantalon blanc, la veste de concours qui ressemble à une veste de costume, avec le petit col blanc, la chemise en dessous, les bottes en cuir, ça fait aussi vraiment tenue chic. Et il faut être toujours clean à cheval, faut que ton cheval soit propre, faut que tes cuirs soient propres, faut que toi tu sois clean.
Et ça fait partie
de l'image.
Ouais.
En fait, et je pense que c'est ça qui peut aussi faire peur. Alors que dans la vraie vie, on est tous les pieds dans le crottin avec nos boots d'écurie et on pue le poney, quoi. Mais là, il n'y a rien de chic là-dedans. C'est le combo marque de luxe, le cheval, la tenue, le matériel, enfin, tous. En fait, c'est tout. Les us et coutumes autour de l'équitation qui font que ça n'a pas l'air accessible. Après, il y a toutes les histoires de chasse à cours qui étaient réservées à une élite. C'est encore les grandes familles anglaises ou françaises qui pratiquent, malheureusement. Mais voilà, c'est dans les coutumes, en fait. Et je pense que c'est aussi cet aspect vieille France qui peut un peu être repoussant.
Et quelles seraient les solutions, d'après toi, pour justement essayer de montrer aux gens outre la médiatisation peut-être, mais et encore, parce que les gens, effectivement, si c'est médiatisé, les gens pourraient regarder, mais c'est peut-être une approche aussi du sport qui est différente, parce que si dans ta tête, tu te dis que t'aimes pas l'équitation, même si c'est diffusé, tu vas pas le regarder.
Ouais.
Est-ce qu'il y aurait des solutions justement pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas forcément un sport élitiste?
Le problème, un des grands problèmes qui divise la communauté équestre en France, c'est la Fédération Française d'Équitation, qui semble désuète pour beaucoup de personnes. Le président Serge Lecomte est en place depuis plusieurs années, mais ne serait-ce qu'au niveau de la médiatisation, là pour le coup, et de la com, la Fédération Française d'Équitation met pas le paquet. Contrairement à la FFF, à la FFT, on connaît leurs actions, on sait ce qu'ils font, ils ont un visage. Alors que la FFE, ils sont basés à la Motte Beuvron, dans le Loiret, je crois, en 45. Donc, je pense que même vous ne savez pas où c'est.
Je te confirme.
En fait, c'est le parc équestre fédéral. Donc, il est magnifique, hein, c'est super pour les championnats de France, etc. Mais ils sont loin de leurs cavaliers parce que beaucoup de choses se passent aussi à Paris, beaucoup de choses se passent à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, dans d'autres grandes villes. Et en fait, notre fédération, elle est perdue au milieu de la France, avec personne autour.
Ouais.
Et on a l'impression juste qu'ils sont enclavés dans leur petite ville et qu'ils ne parlent pas de leurs activités, alors qu'ils en font plein. C'est ça qui est hyper dommage. C'est qu'ils ont fait...
Ils communiquent mal, quoi.
Ils communiquent mal. Ils ont fait quelque chose de super il y a quelques années qui s'appelle l'équitation pour tous. C'est 50 euros pour 6 séances. Et après, on peut avoir des réductions si on s'inscrit ou pas dans un club. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça, de petites opérations qui étaient hyper sympas, qui ne sont pas...
Qui sont passées inaperçues,
à part pour France 3 Région, pour la journée du cheval à chaque rentrée. Enfin, et c'est hyper dommage, parce qu'ils font un super travail d'organisation. Ils ont une direction technique sportive qui est géniale.
Ouais.
Ils ont des super coachs. Des super entraîneurs pour les équipes de haut niveau. Et on les entend pas, on les entend que dans les médias spécialisés. Mmh. Et c'est trop dommage. Parce que je pense qu'il n'y a pas de travail de fond pour changer cette image-là. Et c'est ça qui est super dommage.
Peut-être qu'au final, ils ne veulent pas forcément la changer aussi, cette image.
Question.
C'est un peu la question.
J'aimerais bien savoir, alors s'il y a des gens de la FFE qui écoutent ce podcast, qu'est-ce que vous pouvez me parler?
Répondez en commentaire de cet épisode.
Partout en débat, s'il vous plaît.
Ça nous intéresse.
Ça m'intéresse.
C'est vrai que moi, il y a aussi un sujet que je trouve hyper intéressant, dont tu parlais tout à l'heure, qui est le cheval. Parce qu'au final, effectivement, c'est quand même le centre du sport, hein, sans cheval, faire de l'équitation.
Ouais, c'est relou.
C'est un peu compliqué, même si je crois qu'il y a des compétitions de saut d'obstacle.
Ah oui, exceptionnel.
sans cheval. Donc, comme quoi, bon, ça peut se faire, mais c'est quand même moins pratique. Du coup, en novice totale de cette discipline-là, c'est vrai qu'il y a un truc qui me fascine quand même énormément, c'est la relation d'un cavalier avec son cheval. Ça a l'air d'être un truc hyper puissant et que le lien... plus que la discipline en elle-même et les compétitions, etc., c'est vraiment ce lien-là, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est vraiment ce lien-là avec l'animal qui est prédominant et qui est le truc le plus fou en fait, dans ce sport-là, dans cette discipline-là aussi.
Bah, je pense que la base de l'équitation, surtout quand on a son propre cheval, c'est le respect de l'animal. Que ce soit au niveau des soins, au niveau de l'alimentation, il faut qu'il soit bien traité, il faut qu'il soit bien dans sa tête et content, en fait, parce que sinon, s'il n'a pas le moral, c'est comme nous, bah, t'es moins productif, t'as moins envie de travailler, t'as pas envie d'aller faire du sport parce que t'es fatigué. Après, ça dépend évidemment de l'utilisation qu'on en fait du cheval. Mmh. Moi, je fais du saut d'obstacle, je suis en amateur, et je suis plus axée loisir, mais les personnes qui sont à haut niveau, eux, c'est leur outil de travail. Mais la plupart du temps, bon, ils sont pas tous hyper clean dans les entraînements, mais on sait pas ce qui se passe dans les écuries, mais le respect du cheval est très important.
Surtout que toi, du coup, t'as une jument qui a un petit prénom, donc tu peux lui donner son petit prénom.
Coucou Carmen. Je suis un enfant quand je parle d'elle.
Carmen. Et donc, la relation avec ton... Ça fait combien de temps que tu l'as ?
Ça fait depuis mai 2018, donc ça fait presque un an.
Un peu moins d'un an. Quelle est la relation ? Du coup, t'es la mieux placée maintenant pour parler de relation avec ton cheval. J'imagine que c'est un truc... C'est un truc de fou.
Bah, c'est assez fou, en fait. J'avais déjà eu... Des liens un peu spéciaux avec des chevaux dans d'autres clubs. Alors, cette phrase est un peu étrange, mais voilà, rien
sorti de son
contexte, comme beaucoup de choses dans l'équitation, genre serre les jambes, c'est un peu bizarre. Mais en fait, non, quand vraiment c'est ton cheval, c'est très différent.
Ouais.
Déjà parce qu'on la voit plus souvent, donc elle me reconnaît. Et une relation de confiance qui s'est installée très vite. C'est aussi pour ça que je l'ai achetée, hein, parce que j'en avais essayé deux autres avant, qui me semblaient un petit peu trop énervées. Et, et elle s'est approchée de ma mère, qui a un petit peu peur des chevaux, désolée maman, mais il faut que je le dise, et qui s'est approchée d'elle et qui a posé son nez sur elle et qui a fait juste une petite respiration douce. Et je me suis dit, bon, toi, t'es mignonne. Je suis montée dessus et j'ai eu tout de suite ce sentiment de confiance.
Ouais.
Qui n'est pas toujours acquis, hein, en équitation. Toujours une petite appréhension sur un nouveau cheval. On ne sait pas comment il va se comporter, s'il est gentil, s'il est confortable, hein, parce que ça peut aussi être important. Et elle, très très vite, en fait, on s'est très très bien entendu.
Osmose.
Osmose totale.
Ta jument, donc Carmen, dis-moi si je me trompe, c'est un cheval qui était un cheval réformé.
Ouais, Carmen, c'est une jument réformée des courses que j'ai achetée à l'écurie Seconde Chance, qui est à Combray dans l'Anjou.
Est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est une jument ou un cheval réformé ?
Alors, un cheval réformé, c'est un cheval qui n'était pas assez performant en course de trot, en course de galop ou en steeplechase, donc les courses de haies, qu'il soit envoyé à l'abattoir, on le met dans une association, donc en dépôt-vente. En fait, c'est à partir du moment où le coach est un peu respectueux de ses chevaux, c'est assez automatique. Par exemple, l'ancien propriétaire de Carmen s'appelle Gabriel Lenders et il a une écurie de course donc à côté des écuries Seconde Chance. Et je crois que c'est pas la première fois qu'il met des chevaux aux écuries Seconde Chance et au moins il est sûr que ses chevaux vont dans une bonne famille et qu'ils auront une bonne seconde vie.
C'est un sujet sur lequel tu étais assez investi et tu milites parce qu'au final, si je comprends bien, les chevaux de course hein, qui font du haut niveau, quand on considère qu'ils sont plus assez bons, on les tue en fait.
Soit on a assez d'argent pour leur offrir une belle retraite chez soi dans son pré et Dieu bénisse, hein. Enfin, c'est très bien pour lui. Soit s'il y a une fracture sur une course ou au box, bah, c'est euthanasie. Ce qui peut être aussi dans d'autres disciplines. Hein,
alors
s'il y a des fractures.
Il est blessé le cheval.
Alors qu'il est juste blessé. Ouais. Et si vraiment il n'a pas assez de bons résultats. Bah ouais, c'est ça, c'est abattoir où on essaie de lui offrir une seconde vie.
Ouais, parce que ça coûte trop cher du coup d'entretenir un cheval qui rapportent plus assez d'argent dans la
discipline.
C'est
ça, c'est un faut être rentable.
Donc à partir du moment où les chevaux sont plus rentables, on les tue, quoi.
Bah, il y en a pour qui ça fonctionne comme ça. Pas tous, hein. Il y a des gens très bien dans les courses qui font attention à leurs chevaux et qui les adorent, mais ça arrive assez souvent.
La solution, c'est comme ce type, donc seconde chance, tu disais. Où,
ouais, les écuries seconde chance, ouais.
Tu vois, moi, avant de préparer cette interview et de m'intéresser un petit peu à ce monde-là, très naïvement, je m'imaginais que les chevaux, quand ils étaient en fin de carrière, ils gambadaient dans un pré et finissaient leur jour heureux, à finir à boire de l'eau et à gambader gentiment. Et c'est con, tu vois, mais très naïvement, je m'imaginais absolument pas qu'en fait, quand un cheval était considéré comme plus rentable et plus assez efficace, bah en fait, on pouvait le tuer. Enfin, je sais pas, tu vois. Et ça, je trouve que c'est pas quand t'es pas dans ce milieu-là et quand tu t'intéresses pas vraiment à cette discipline, tu t'en rends absolument pas compte.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors que c'est... Enfin, moi, je trouve ça gravissime, tu vois, au final, d'un point de vue extérieur. De l'intérieur, j'imagine que c'est encore... Encore pire.
Tu m'étonnes. Non, mais après, il y a des cavaliers. Par exemple, si un cheval de saut d'obstacle 5 étoiles se fait une petite fracture ou même une grosse fracture, il peut décider de le laisser 6 mois au box avec un plâtre et savoir qu'il ne ressautera jamais un obstacle et qu'il ne pourra même peut-être jamais galoper correctement dans un pré. Mais au moins de savoir que le cheval est auprès de lui et a des bons soins. Moi, je suis très très défense des animaux et tout en plus, donc t'imagines bien que ça me fendrait le cœur de devoir tuer ma jument si elle s'est fait une fracture, je touche du bois. Mais c'est sûr que c'est difficile de s'imaginer ça.
Personnellement, tu pourrais pas le faire. Enfin, j'imagine que c'est impossible.
À part si elle souffre.
Oui, si elle est malade. Si
elle est malade ou si elle souffre et que je le vois, je ferais tout pour ma jument. Mais c'est aussi pour ça que je me suis bien entendue avec les filles des écuries seconde chance qui m'ont accueillie. D'ailleurs, faut savoir que pour aller aux écuries seconde chance, c'est pas automatique, c'est pas n'importe qui peut y aller. Il y a une présélection au téléphone, savoir au niveau des ambitions, au niveau du prix qu'on est capable de mettre aussi, de l'entretien que le cheval pourra avoir ensuite. C'est pas facile non plus d'adopter un cheval dans ce genre d'écurie parce qu'il faut qu'il y ait une garantie de soins et de bien-être.
Ils font une sélection en fait, de profil de personnes.
Exactement.
Pour être sûr que vous allez bien vous occuper des chevaux.
C'est sûr. C'est sûr. Et Carmen, qui s'appelait d'ailleurs autrefois Croix de Malte, j'avoue, je l'ai renommée déjà parce que je trouve Croix de Malte, je trouve ça très très moche, mais surtout pour balayer son passé de jument de course.
Deuxième vie.
Je savais que si moi je ne l'avais pas prise, elle aurait été adoptée dans la semaine, tellement elle est gentille. Ouais. Et elle est facile et c'est une gentille jument qui en plus aime bien l'obstacle, donc j'ai de la chance. Et tout le monde l'adore aux écuries, c'est un peu. Un peu la mascotte, parce qu'elle a le box devant la carrière, et donc tout le monde lui fait des petits câlins, toujours des petits bisous et tout.
C'est la superstar.
Ouais, elle est trop mignonne. Tout le monde l'adore.
Il y a aussi du coup un autre sujet qui est intéressant, parce que l'équitation, au final, quand on regarde, c'est vraiment un sport à part. C'est le seul sport aux Jeux de Rio qui était intégralement mixte, donc où les femmes et les hommes concouraient dans les mêmes catégories. C'est le seul et unique. Il n'y a pas d'autres sports, en fait.
Non, c'est la seule. C'est l'équitation et le seul sport, que ce soit en dressage, en saut d'obstacle ou en concours complet, qui est totalement mixte. L'équipe de concours complet était faite exclusivement d'hommes. Mais c'est pas grave, ils ont gagné la première médaille française, donc on leur pardonne, la médaille d'or, je précise. Mais oui, c'est aussi, je suis assez fière aussi de faire ce sport pour ça, parce qu'on est vraiment le seul sport où hommes et femmes peuvent concourir ensemble. Et en plus, avec des chevaux, donc ça fait quand même
trois personnes différentes. Non, et c'est hyper important, je pense, de le souligner. Et c'est vraiment pas normal qu'il n'y ait pas d'autres disciplines mixtes.
Et justement, tu penses que c'est une discipline mixte parce que tu as l'intermédiaire du cheval ?
Non, bien sûr. Ouais. Parce que ça remet sur un pied d'égalité. Je pense que c'est ce qu'ils se disent au CIO. Non, parce que dans l'équipe de Rio, il y avait donc Philippe Rosière à Hôtel de Toscane, Pénélope Leprévost, Florane Mariposa, il y avait Kevin Stott et Rêveur du Hurtbise.
Toujours des noms quand même très particuliers, ouais, les chevaux. Hein.
Et tu m'étonnes, et Roger Bost avec Sydney Une Prince qui a fait le dernier tour sans faute incroyable pendant l'épreuve par équipe. Et ils nous ont fait vivre des bonnes sensations pendant les Jeux Olympiques, les cavaliers.
Et vous, et toi, du coup, hein, que ce soit un niveau loisir amateur ou même dans le haut niveau, tu vois que du coup, en termes de... C'est vraiment un sport, même de l'intérieur, où c'est totalement égalitaire, où il n'y a aucune différence entre les mecs et les filles, que en compétition, vous êtes traités de la même manière, que tu sens vraiment ça ?
Ah oui. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de... Moi, en tout cas, je ne ressens pas de différence. Je n'en ai jamais ressenti. Après, quand on approche des sommets d'excellence en concours, quand ça devient donc ton métier, évidemment, il y a plus de femmes qui arrêtent ou en tout cas qui font une pause pour avoir des enfants. Donc il y a un moment, il y a plus d'hommes en pro, mais il y a toujours beaucoup de femmes. C'est toujours mixte, mais quand on regarde le top 3 du saut Hermès du 5 étoiles il y a quelques semaines, ce sont des hommes.
Je me suis amusée à aller sur les sites pour recenser les meilleurs cavaliers, en saut d'obstacle en l'occurrence.
Oui.
Où c'est vrai que du coup, il y avait 7 noms, et sur les 7 noms, il y avait une femme. Donc je me suis dit, ah, bon, bah, c'est quand même un sport mixte, tant mieux, c'est génial. Mais par contre, quand on arrive au niveau de l'élite et des tout meilleurs, bah, c'est quand même 6 contre 1, quoi. Donc il y a quand même un petit déséquilibre qui se crée à un moment donné.
C'est sûr, toujours, mais c'est pas une différence de niveau. Je pense que c'est vraiment une différence de mode de vie. Et je peux pas affirmer qu'il y a des femmes qui décidaient de pas avoir d'enfants pour poursuivre leur carrière, il y en a sûrement. Mais effectivement, le fait d'avoir des enfants à un moment dans ta carrière, évidemment, t'es obligé de faire un break.
Ça me fait rebondir sur un autre sujet, parce que c'est aussi un des sports que tu peux faire le plus vieux.
Ouais.
C'est d'ailleurs un des... Là, le plus... Désolé, monsieur, hein, le plus âgé des médaillés olympiques à Rio, c'était un...
Un cavalier ?
Un cavalier.
Cette année ?
À Rio.
À Rio.
Les Jeux Olympiques.
Ah oui, non, cette année. C'était qui ? Ça devait être Roger Bost, non ? C'était qui ?
Alors, je l'ai noté.
Bosti ou Philippe Rosier ?
Philippe Rosier, ouais, 53
Philippe
ans.
Philippe Rosier, oui, c'est ça.
53 ans. Donc, au final, si les hommes peuvent aller jusqu'à 53 ans, j'imagine que les femmes peuvent aussi aller à 53
Bien
ans.
Sûr.
Donc là, on arrive à des... Si tu parlais du break pour avoir des enfants, mais à 53
oui.
ans...
Oui, après, on y revient toujours.
C'est des femmes qui peuvent avoir des enfants de 30 ans. Hein, donc,
oui, non, mais bien sûr. Elles y reviennent, ça c'est sûr.
Au final, c'est le sport qui regroupe le plus d'exceptions. C'est le sport qui est mixte, où tu peux le faire limite toute ta vie, en fait, parce que
carrément.
J'imagine que tu es obligé d'avoir une condition physique quand même qui est optimale,
qui
est quand même pas la même que quand tu fais de la boxe ou j'en sais rien, où physiquement, tu prends
cher,
bien sûr. Et on le dit pas assez, je pense.
Bah, c'est le sport dans lequel aussi on a beaucoup de mélanges de d'âge. Parce que moi, aux écuries, j'ai des copines qui ont 16 ans, mais il y en a qui ont 60. Enfin, et en fait, on est tous liés vraiment par le cheval. Il n'y a pas un cheval qui se ressemble dans les écuries de Bièvre. Il n'y a pas un cavalier qui se ressemble. On monte tous différemment, mais on est toujours en boucle sur l'équitation. On parle que de ça. Même quand on y est, on s'en parle, même quand on n'y est pas. J'appelle mes copines, par exemple Romane, que j'ai tous les soirs. Alors, qu'est-ce que tu vas faire au concours ? Dis-moi, c'est quoi ton programme de la semaine ? Qu'est-ce que tu veux faire ? On s'en parle tout le temps, en fait. C'est en boucle. Moi, j'ai vraiment, c'est vraiment une vie à part pour moi, l'équitation.
Et d'ailleurs, donc, ça me fait une parfaite transition. Mais toi, t'as monté, t'as créé un compte Insta il y a quelques mois qui s'appelle Poney Même. Donc, Poney comme un poney et Même comme les mèmes d'Internet.
Oui.
Pourquoi t'as créé ce compte Insta ? Donc, en l'occurrence, le nom parle de lui-même, c'est un compte Instagram sur des mèmes en lien avec l'équitation et le poney.
Alors déjà, parce que moi, dans la vie en général, je suis un boulet. Donc je fais tout le temps tomber des trucs aux écuries, tu sais, toujours des petits éléments qui t'énervent, tu vois. Et en fait, dans les mèmes, dans tout ce qui est Fuck Jerry ou Vodka Lana ou dans
Piobiti, enfin tous les comptes d'eux-mêmes, pas spécialisés équitation évidemment, t'as ces petites situations énervantes du quotidien qui reviennent très souvent. Et en fait, il y en avait déjà un compte Instagram qui s'appelle La Vérité si je monte.
Beau jeu de mots.
Très beau jeu de mots. J'avais complimenté au début et après on est un peu parti en clash. Parce que moi j'ai toujours été bienveillante et la personne qui gérait ce compte n'était pas bienveillante sur d'autres comptes et donc du coup s'est fait zapper son compte. Voilà, donc moi ça me va hein, parce que du coup je récupère plein de followers. Et en fait du coup j'avais plein d'idées et très sincèrement je me faisais rire toute seule quand j'y pensais. Et je les envoyais au début à mes copines en disant qu'est-ce que t'en penses et tout. Et en fait, c'est juste vraiment traduire la réalité. Parce que c'est même pas des trucs trop élaborés hein, que je trouve. C'est juste une image d'un mème classique, c'est un cheval ou pas. Enfin, ça peut être juste un gif ou un. Je sais pas, juste une photo. Et après, essayer de trouver une phrase courte qui rétablit bien la situation, quoi. Mm-hmm. Et en fait, bah, du coup, ça marche.
Ouais, parce que t'as déjà, ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois, je crois, c'est ça que t'as...
Depuis début février, ouais.
Donc, ouais, c'est ça, deux mois et demi.
Ouais, après, ouais, t'as 6000 followers.
Ouais, t'as déjà 6000 followers, quasiment, ouais. Donc, ça a été un plébiscite.
Ouais, je suis assez contente, j'avoue, je suis un peu fière, parce que à la base, je faisais ça pour rigoler. Je me suis dit, bon, il y a des copines qui vont me suivre et tout. Et en fait, je me trouve assez bienveillante. Bon, je charrie toujours un petit peu dans les commentaires. Tu vois, il y a toujours des gens qui sont pas contents ou qui viennent réclamer des trucs. Mais je suis toujours gentille et je réponds aux messages qu'on m'envoie parce qu'en fait, ça me fait super plaisir. Je kiffe. Enfin, on parle d'équitation, on fait des blagues, tu vois. C'est vraiment hyper... c'est que de la bienveillance et du sympa. Enfin, tu vois, je vais pas de but lucratif. Enfin... J'en fais quand je peux en faire.
Tu l'as vraiment fait pour dans une volonté de faire marrer, en fait?
Ah ouais, carrément. Non, c'était juste pour faire rire. C'était parce que je sais que c'est assez vrai. Parce que je pense que sinon, j'aurais pas autant de followers. Et parfois, il y a des trucs un peu crades. Parfois, c'est des trucs drôles. Enfin, tu vois, toutes les cavalières quasiment ont déjà vécu cette situation gênante du pantalon de concours blanc taché par le sang de tes règles, ouais. Tu vois. C'est dégueu, mais en fait, c'est des trucs, ça arrive tellement. On l'a tout eu, tu vois, ou plein de choses comme ça. Et c'est des choses dont t'as pas vraiment envie de parler, tu vois. Mais du coup, en fait, j'ai mis deux pieds dans le plat, par exemple, sur celui-là. Et en fait, il a hyper bien marché. C'est drôle.
Vous êtes obligé d'avoir des pantalons blancs, là. Vous êtes obligé d'avoir des pantalons blancs quand
blanc
vous...
Blanc ou beige. Ou de couleur foncée en Hunter, une autre discipline qui ressemble un peu à du saut d'obstacle.
D'accord. Et oui, j'avoue. Et du coup, le problème des règles, effectivement,
bah ouais.
C'est aussi...
Bah, c'est chaud, quoi. Enfin, tu vois, à un moment, t'as celle qui est collée à ton entrejambe. Donc, comment te dire, enfin,
tu
juste...
peux pas, t'es sur un cheval, en l'occurrence.
Non, ouais, ça, c'est un peu compliqué de dire, attendez, les gars, je descends. Enfin, je l'ai déjà fait, du coup, mais... Mais solitude, quoi. Surtout si t'as un coach... bon, mon coach est très cool. Et si, Ben, j'espère que ça t'arrivera jamais. Mais si je lui dis, attends deux secondes, faut que j'aille aux toilettes. Tu vois, je serais pas gênée.
Ouais.
Mais il y en a que ça pourrait gêner. Mais qui seraient hyper mal. Et t'es crispé, t'as pas envie que ça se voit non plus. Parce que c'est moche, quoi. Mais après, c'est naturel.
Ouais, bah voilà, j'allais dire, bah, en même temps,
s'en fout,
c'est comme
tu
ça,
vois,
quoi.
Il y a des femmes, hein, donc on le sait.
Faudrait s'en foutre, quoi. Genre, hey, ouais. Un problème
c'est
non,
ça.
Aucun problème, gars.
Non, mais c'est ça, c'est comme les femmes qui font le marathon sans mettre de tampon, tu vois, c'est un délire, mais elles le font et elles s'en foutent, quoi.
Quand on va sur ton compte, sincèrement, on comprend pas grand-chose. C'est
tu hyper, m'étonnes.
C'est hyper opaque. Hein. Tu vois les trucs, tu dis « Ouais, ça a l'air marrant, mais alors je comprends rien. » Soyons honnêtes, hein. Quand t'es pas dedans, tu comprends vraiment pas le truc. Mais est-ce que du coup, toi, t'avais quand même une volonté de dire « C'est un peu un milieu où on a l'impression, où les gens se disent, ils se prennent grave au sérieux, où on se la pète et tout. Bah regarde, moi, je vais te prendre un peu le contre-pied aussi. En fait, je vais te montrer que bah, dans l'équitation... T'as des codes de l'humour aussi, c'est hyper marrant, on se prend pas la tête, on est fun, tu vois.
Ouais, non, mais carrément, c'est vraiment ça. Et puis en plus, ce qui est dommage, c'est que t'as pas beaucoup de médias spécialisés dans l'équitation qui sont fun. Alors t'as Georgette Mac qui a été créée par Amélie Moronval, qui était une de mes anciennes collègues d'écurie, qui fait des vidéos fun, décalées, des tutos hyper cool et qui en parle super bien et avec autodérision aussi. Mais il y en a pas beaucoup et c'est trop dommage parce que en fait la vitrine qui est renvoyée via les médias d'équitation classique renvoie soit du sport ou de l'info froide ou de l'élevage, enfin des trucs pas drôles, quoi. Et en fait quand j'ai travaillé pour un magazine dont je ne vais pas citer le nom. Pendant les Jeux Olympiques de Rio, on avait créé cette rubrique qui s'appelle rubrique Buzz, avec un habillage jaune classique. Enfin, c'était pas, ça ressemblait un peu à rien. Et en fait, on avait fait... Tu sais que tu regardes les JO de Rio quand,
ouais.
Quand tu mets ta jambe, enfin quand tu passes ta jambe en l'air, quand il y a un cheval qui est au-dessus d'un obstacle, quand tu cries devant un sans-faute. Enfin, on avait fait toute cette liste-là qui avait super bien fonctionné et je crois qu'elle y est toujours. Et tant mieux parce que ça prouve que ça marche. Mais je pense qu'il faut vraiment désacraliser ce sport et montrer que en fait 90% des choses qui sont montrées, c'est pas ça l'équitation.
Ouais.
L'équitation, c'est aussi la vie dans les écuries. La vie avec ton coach, avec tes copines, parce que moi mes meilleures amies viennent du club hippique des étangs de Meudon. Donc c'est vraiment c'est plus familial que sportif, quoi. Enfin, c'est plus une famille avant d'être une discipline.
Là, je vais un peu changer de sujet, mais c'est vrai qu'en fait du coup on a remarqué en cherchant un peu que le cheval, c'était quand même un animal un peu sacré, tu vois, qu'il était énormément repris dans la culture, dans l'art. Enfin, il y a énormément d'artistes qui ont peint des chevaux.
Ouais, carrément.
Même maintenant, dans le rap, quand tu vois Niska qui est sur un cheval, sur son clip, tu te dis, ok, même dans la pop culture ou dans le rap game, c'est un animal qui est représenté, qui est utilisé. C'est quand même fou, quoi.
Ouais.
Est-ce que toi, du coup, t'as dans l'art, dans la culture, j'en sais rien, un film, une œuvre qui prend justement, qui met en scène des chevaux qui t'a marqué ou que tu t'aimes particulièrement?
C'est un tableau de Magritte qui s'appelle Le Blanc Seing, S-E-I-N-G, je crois. En fait, c'est un trompe-l'œil, c'est un cheval et un cavalier qui sont dans la forêt. Et c'est hyper beau et en fait, ça m'a marqué super tôt. Enfin, je l'ai vu, je sais pas, je devais avoir 10 ans, je pense. Et c'est un truc, c'est mon marque-page en fait depuis des années, donc depuis 15 ans. Et ce truc me fascine un peu, enfin, ce tableau je le trouve vraiment hyper beau. Et ça montre un peu toute la complexité de l'équitation, enfin, tu vois, les différents, il faudrait que tu le regardes, mais les différents plans auxquels tu peux mettre le cheval, enfin, dans la nature et tout, je trouvais ça assez cool. Et évidemment, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, quoi.
Ouais.
Comme nous toutes et nous tous. Y a pas de...
Le classique.
Ah bah, le classique, on a tous pleuré de joie, de tristesse, on a tous frissonné. Enfin, ça peut paraître un peu ringard, mais je le regarde encore. Ça doit faire pas 50 fois que je le regarde. Donc, très souvent maintenant, avant le cheval, c'était vraiment cet animal sacré, un peu toujours représenté dans les postures hyper nobles, cheval cabré et tout. Et en fait, maintenant, je vois de plus en plus, par exemple, un truc con, des hauts pour hommes ou pour femmes avec des imprimés têtes de cheval. Ouais. C'est un truc que même moi, je vais jamais porter, tu vois. Tellement c'est second degré comme truc. Et ça, c'est assez cool, ce que tu disais, Niska, dans le clip, quand il est à cheval aussi. Enfin, tu vois, Booba qui appelle sa chanson « Double poney ».
Ouais.
Tu vois, des trucs, ça te semble... tellement fou, en fait, c'est trop bien. Enfin, moi, je trouve ça plus sympa de voir le cheval dans ce cadre-là plutôt que sur un tableau avec Napoléon cabré pendant une guerre.
Est-ce que du coup, tu te dis pas finalement qu'en fait, la vulgarisation de ce sport-là, il va même peut-être venir de la pop culture, tu vois,
ça serait trop bien, ouais.
Plutôt que du sport en lui-même.
Bah, ça serait vraiment cool que ce soit le cheval, l'animal, qu'on parle que de l'animal avant de parler du sport. Je pense qu'on le fait pas assez. Je suis en train de réfléchir en fait en même temps à cette discussion. Du coup, je me dis, attends, comment on peut faire? Comment on fait? Et non, mais c'est une vraie bonne idée, ça.
Voilà, on a trouvé.
Allez, nouvelle vocation.
Un nouvel angle, on va se lancer. Vas-y, on se lance dans le bis toutes les deux.
Bis de cheval. Mamos.
Il fallait quand même qu'on en parle. Là, du coup, je dis au revoir un peu aux chevaux et aux poneys. Gambader dans la prairie.
Je vois bifurquer quelque chose qui va me faire mal au cœur. Là, je vais pleurer. Je sais.
Mais c'est vrai que du coup, on pouvait pas finir cette interview aussi sans parler de ta passion pour les PSG.
Ah ouais.
Dont tu nous as quand même expliqué un peu au début que ta famille était... était 100% derrière le PSG depuis que t'es toute petite. Et du coup, ils t'ont transmis cette passion pour le foot.
Ouais, c'est chaud. C'est chaud, mais tout le monde me dit, mais pourquoi t'aimes le foot comme ça? Déjà, parce que c'est encore un peu bizarre dans la tête de certaines personnes qu'une femme aime autant le foot. Problème.
Ça arrive.
C'est dingue, alors qu'une femme aime le foot, c'est fou, quoi. Non, et en fait, mais je les ai toujours entendus parler, piapiater, débattre entre potes au dîner de mon père et ses copains, tu vois. Moi, je comprenais rien quand j'étais petite, tu vois, je jouais le ballon, je savais même pas qui gagnait, machin, juste là, ouais. Et non, et après, j'ai piqué le maillot de rail de mon frère. Puis mon frère a acheté toutes les collections possibles et inimaginables de maillots du PSG. Genre une édition Vuitton.
Il avait les albums Panini et tout.
Non, mais c'était un fou des albums Panini et tout. Et encore une fois, c'était un grevard, il voulait pas me les prêter. Et du coup, j'ai eu un peu ce truc... au début, c'était vraiment juste, je regarde de loin et le folklore, tu vois. Et après, mon père m'a emmené au Parc des Princes. Et là... Là, c'est fini.
Coup de foudre.
Ouais, parce qu'en fait, évidemment, comme pour toute discipline, de le vivre à l'instant T, c'est toujours mieux que de le regarder.
C'est sûr.
Et bon, moi, mes premiers matchs, c'était. Je peux même pas te dire l'année, mais en tout cas, il y avait. C'était après la loi Le Proulx, donc qui a banni les ultras du Parc des Princes. Donc évidemment, t'avais pas trop d'ambiance, tu vois, entre ça et les Qataris, c'était pas non plus le fun assuré. De ce qu'on se disait communément, tu vois, c'était Qatari plus loi Le Proulx, bah égale pas fun. Et en fait, moi j'y suis allée et j'ai vu des mecs qui kiffaient malgré ça, tu vois. J'ai vu des enfants qui venaient avec leur mère, ce qui était un peu compliqué avant. J'ai vu des parents, j'ai vu déjà mon père qui était fier, grave, que je vienne avec lui et que ouais. Je comprenne, tu vois, ma fille elle comprend tout au foot et tout, t'inquiète. Et puis on a partagé ça en plus, tu vois, et du coup je suis rentrée dans ce truc de débattre du foot à table avec lui, avec ses potes, avec mon frère. Maintenant mon frère on s'appelle
pour débriefer des matchs.
Non mais c'est le foot, c'est un truc de dingue, parce que bon, c'est communément dit, mais c'est le sport où tu regardes le before à la télé, tu regardes le match, tu regardes l'after, et après tu tapes le replay si t'es vraiment passionné. Moi ça m'est arrivé sur quelques matchs, et après t'en reparles avec tes potes, mais ce truc est sans fin en fait, tu vois.
Tu peux vivre uniquement le foot.
C'est ça.
Tu n'as plus de vie à côté.
T'es en boucle en fait, et moi j'adore. En plus là, il y a les ultras qui sont revenus côté Auteuil, et donc du coup... moi, je suis tribune Paris, je suis vraiment au milieu, donc les mecs chantent pas trop, tu vois, mais moi je chante, je kiffe, je m'en fous, je suis toute seule.
Vraiment au taquet, quoi.
Ah bah ouais, quand on y va, soit avec mon père, soit avec Bertie ou Cédric, que mes meilleurs potes que j'emmène souvent au parc, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est juste, c'est un exutoire, hein, vraiment, le stade, c'est vraiment pas une légende, quoi. C'est, tu vas, tu cries, tu ris, tu pleures.
Comment ils réagissent, les mecs, du coup, quand tu rentres dans le game du débat, est-ce qu'ils se disent genre, mais attends, meuf, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Ou il y a quand même ce truc-là?
Ah bah, il y a tellement ce truc de mansplaining du mec qui est, attends, comment ça tu connais le foot, le PSG? Dis-moi l'effectif du PSG en 2002. Et je lui dis, mais j'en sais rien, moi. Juste, moi, je peux le dire que je suis une footix, si tu veux, mais je kiffe. Ça me rend heureuse, en fait, quand je vais regarder un match, tu vois. Et le jugement des mecs qui disent, ouais, mais t'étais pas là en telle année, en machin. Ok. Enfin, so what, tu vois, genre j'y vais, moi je suis contente, c'est sympa, je suis avec mes potes ou en famille, et après, évidemment, je les regarde aussi à la télé, c'est ça qui est inquiétant, c'est quand je me regarde les streamings toute seule en peignoir à la maison, ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est quoi ta vie? c'est des kiffs, tu vois, c'est vraiment, c'est comme l'équitation, je regarde les concours de 5 étoiles à la télé aussi quand j'y vais pas, c'est la même passion, quoi. Mais c'est sûr que pour certains hommes, ça peut être un peu compliqué à voir, à entendre au début.
Appréhender, ouais.
Soit il y en a qui trouvent ça trop cool et donc, du coup, tu vas leur en parler pendant une heure. Puis c'est une très bonne intro, hein, quand tu connais pas quelqu'un, le foot, tu vois. Mais quand t'es une femme et que t'aimes bien le foot, et que, tu vois, ça peut être pas mal aussi. Mais c'est compliqué de... Parfois, il faut le justifier. Et c'est ça qui est super relou, en fait. C'est quand on dit, mais pourquoi t'aimes le foot? Je sais pas, gars, pourquoi toi
t'aimes le foot? Tu poserais, en fait, c'est non, ça le truc, c'est ça. Est-ce que tu poserais la même question à un gars, à un de tes potes, tu vois? Ou genre,
non, ouais. Pas du tout. Et c'est ça qui est ouf, en fait. C'est ces différences de traitement comme ça. C'est... Bah, du coup, en fait, maintenant, il y a plein de mecs que je mets à l'amende niveau foot, tu vois, donc c'est hyper cool. Je joue très mal, mais... Mais en parler, il n'y a aucun problème.
Tu vis bien avec cette schizophrénie poney-foot, du coup ?
Ah bah oui, parce que, du coup, j'ai deux personnalités. Les deux, c'est deux choses qui prennent beaucoup de temps. Bon, l'équitation un peu plus, mais ouais, je suis un peu schizo-poney-foot, ouais. J'aurais dû faire un compte poney-foot, en fait.
Tu vois, voilà, plein d'idées de futurs trucs à développer. Au final, exactement. Même si, à mon avis, peut-être que la communauté poney foot est quand même plus restreinte.
Ouais, on n'est pas beaucoup. On est quelques-uns, mais on n'est pas beaucoup.
Et tu regardes aussi des matchs de foot féminin ?
Non. Très sincèrement, non. Et c'est con de ma part, mais c'est parce que déjà, je sais pas trop quand c'est.
Où les regarder, ouais.
Et où les regarder, je crois que TF1 a les droits là, pour la Coupe du Monde. Ouais. Donc ça, c'est cool. Donc là, je vais regarder. Mais malheureusement, non, les matchs PSG féminines, enfin, je sais même pas où ils sont retransmis. Help, si quelqu'un peut me dire. Ouais. Non, mais je pense que c'est facile de trouver. Mais
en
non.
fait, limite, tu les regardes pas parce que c'est pas facile d'accès, plus que parce que t'as pas envie de le regarder.
Ah ouais, carrément.
Parce que ça t'intéresse pas, quoi.
Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que je sais pas où regarder. Et après, je connais pas le foot féminin, je connais leur boulot qui maintenant est à la retraite et ouais. consultante, quoi. Mais enfin, la retraite. Elle est hyper jeune, mais elle fait une super chroniqueuse et c'est trop bien, tu vois. Donc, c'est cool aussi de voir que les femmes anciennement joueuses de foot peuvent aussi avoir un futur dans les médias en tant que consultant.
Pour clore cette interview, j'aurais une dernière question qu'on pose à toutes nos invitées. C'est ta définition d'une championne.
Championne, c'est pas forcément sportif. C'est quelqu'un qui se bat ou qui arrive à sortir d'une situation compliquée et qui rend quelque chose de moche ou pas facile à vivre en quelque chose de bien et qui arrive à en faire une force. Et je pense que c'est vraiment la résilience et le dépassement de soi qui fait d'une femme une championne. C'est pas trop cheesy, ça va ?
Non, c'est top, c'est trop top. Bah, écoute, cool. Merci beaucoup Anouche et à tous ceux qui aiment l'équitation et qui ne connaissent pas le compte Instagram Poney Même. Je vous conseille d'y aller, je pense que vous allez beaucoup vous marrer. Bon, moi, je ne comprends pas, mais en tout cas, je pense que vous allez beaucoup vous marrer. Et puis, merci beaucoup.
Merci à toi.
Salut.
Salut.
Si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.